le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité de la littérature avec les messmènes de la critique. J'ai nommé Patricia Martin des petits matins du week-end, samedi, dimanche de France Inter, Eric Neuhoff, le multicart du Figaro, aussi à l'aise avec les films qu'avec les livres, Jean-Louis Hésine du Pays d'Auge et de Ponto Combo, et avec le respectable Michel Crépu de la nouvelle revue française, la NRF. On parle ce soir de Bon Baiser de Mesmény, mais également de Romain Gary et Jean Seberg avec le livre d'Ariane Chemin, de Joseph Andras, le prix Goncourt du premier roman qu'il a refusé, de Milena Agus, l'italienne du soir, et avec Éric Hazan et sa traversée de Paris. Dans le courrier de la semaine, beaucoup de réactions après les propos d'Arnaud Vivian sur les putes voilées n'iront jamais au paradis, le livre de Chador Javan, de l'iranienne Chador Javan, Anne Depin. Je suis vraiment choqué par les propos d'Arnaud concernant ce livre. Ce n'est pas un roman pornographique moralisant, c'est la triste réalité de la condition des femmes prostituées. Chador Javan est une écrivaine magnifique qui a du courage. Sa vie a d'ailleurs été menacée et sa tournée pour la présentation de son livre annulée. Des écrivains risquent leur vie pour nous ouvrir les yeux. Jean-Paul Durand, lui aussi extrêmement choqué par les propos d'Arnaud. Chador Javan sait de quoi elle parle. Arnaud, non. Être une prostituée chez les mollas est bien pire qu'en Europe, même si nulle part le statut de la prostituée n'est enviable. Rémi Alivano, également très choqué. Monsieur Vivian est dans le déni le plus complet de la situation des femmes dans un pays comme l'Iran. Il appartient à la lignée de ces intellectuels français prêts à s'abstraire de toute réalité pour ne pas remettre en cause leurs croyances, comme à l'époque des défenseurs de Staline ou de Mao, ou encore Patrick Hanta. J'ai été choqué d'entendre les mots de misogynie ou de méprisant pour le livre de Chador Javan. Beaucoup d'hommes et de femmes de gauche refusent de voir ce que les femmes iraniennes vivent comme horreur. Et enfin, sur ce livre, c'est le docteur Alain Salimpour, qui est psychiatre et qui est d'origine iranienne, qui nous dit « on reconnaissait en Arnaud Vivian l'intello qui n'a jamais mis les pieds dans un pays où on pend les femmes et des mineurs, sans compter les sections de membres et coups de fouet. Il y a à peine 15 jours, nous dit Alain Salimpour, un groupe d'étudiants qui fêtaient leur réussite aux examens ont été arrêtés par les gardiens de la Révolution. Chacun a eu droit à 99 coups de fouet. C'est mieux que 100. Je ne parle pas des humiliations des femmes pour quelques centimètres de cheveux qui pourraient exciter les mollas. » Et beaucoup d'autres lettres que je n'ai pas évidemment le temps de lire ce soir sur ce même sujet et ce livre très fort et très troublant, quoi qu'en pense Maître Crépu, qui avait été sceptique sur ce livre, lui aussi. À propos de Michel, et pour détendre l'atmosphère, Nathan Aubagnel, il faut vous rappeler quand même qu'à la dernière émission littéraire, nous avons tous appris à Michel Crépu ce qu'était une cougar. Il en ignorait le sens. Depuis, en quelques semaines, tu as appris.
Je me suis renseigné. Je suis en mesure maintenant de savoir que c'est un animal qui n'attaque pas l'homme.
Aubagnel a eu une pensée pour Michel Crépu. Au hasard de recherche sur le net, s'est brusquement affiché sur mon écran une publicité annonçant « Rencontre avec Cougar du Pays d'Auge ». Je tiens évidemment l'adresse de ce site à sa disposition. Donc il te suffit d'écrire à ce monsieur. Alors bon, c'est le Pays d'Auge, mais je suis sûr qu'il y en aura ailleurs.
Si tu cherches. Il y en a partout. C'est la femelle du puma, en fait.
Et toujours pour le toi, cougar. Michel, c'est Dadi Derghini, qui habite un village en Algérie, qui a lu une phrase tirée du roman « Soleil brisé » de Walsh, paru au livre de poche. La phrase est la suivante. « Il avait une tignasse noire et il était psychiatre. Je ne connais pas vos vénérables têtes, chers pensionnaires du masque, mis à part celle de Monsieur Garcin, mais à la lecture de cette phrase, c'est le visage que je m'imagine être celui de Monsieur Michel Crépu, celle d'un nounours intellectuel, sincères amitiés algériennes. »
Un nounours, c'est une cougar, ça va faire mal.
Et puis quelques zogmas pour l'été qui commencent avec Michel Pollet de Henri Calais, notre cher Henri Calais, dans la belle lurette. Je n'eus plus 6 mois, je n'eus plus 1 an, j'eus des culottes et 2 ans. Philippe Guézou a lu chez Christine Angot dans Rendez-vous. Ça, c'est pas très élégant, mais bon, c'est du Christine Angot. Il se faisait tailler des manteaux en cachemire à Bond Street quand il partait en voyage à Londres et des pipes dans les grands hôtels ou à
j'aurais
domicile.
J'aurais pu finir la
oui,
phrase.
Moi aussi.
Plus raffiné pour finir, c'est Mohamed Sarr qui a trouvé un très beau zeugme dans l'oraison funèbre que Victor Hugo prononça, tu y étais Michel, je crois, à l'enterrement de Balzac.
Fort bien connu.
Il entre le même jour dans la gloire.
Et le Panthéon.
Et le tombeau.
Et le tombeau.
Et le tombeau. Vous êtes vraiment mauvais dans cette émission. Hein. On commence avec l'affaire du printemps qui a fait la une de tous les journaux. Je veux parler de deux de nos frères blessés de Joseph Andras. C'est chez Actes Sud. Livre qui a valu à ce jeune Normand de 32 ans, caché sous un pseudonyme, de recevoir le 9 mai dernier le Goncourt du premier roman, un prix qu'il a refusé aussitôt en expliquant, et là je le cite, que la compétition, la concurrence et la rivalité sont des notions étrangères à l'écriture et à la création. Son roman, il raconte au présent de l'indicatif le destin de Fernand Yveton, un ouvrier communiste, militant anticolonialiste, rallié au FLN, qui fut torturé et puis guillotiné à Alger le 11 février 1957, ce qui fait d'ailleurs de lui le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie, puisque René Coty et son ministre de la Justice de l'époque, un certain François Mitterrand, ont refusé de le gracier. Motif de cette exécution, Yveton avait tenté de poser une bombe dans une partie désaffectée de son usine. Et d'ailleurs, il avait laissé une lettre à sa femme dans laquelle il écrivait « Je n'ai tué ni eu l'intention de tuer personne ». Donc c'est clairement un livre de réhabilitation qu'a écrit Joseph Andras. Éric ?
Évidemment, moi je ne connaissais rien de cette histoire, hein, comme beaucoup de gens, j'imagine. Yveton, on vous aurait donné ce nom il y a un mois, personne n'aurait su que c'était un type exécuté pour avoir voulu poser cette bombe à Alger. L'histoire est très intéressante, très très forte, mais le livre est très souvent desservi par une prose poétique qui nuit au propos, je trouve. Là, il y a un côté Miss Météo au milieu des séances de torture. Là,
oh,
c'est...
Non.
Mais si,
oh,
regarde.
Non.
La Marne tire sa langue verte à la paix bleue du ciel. La lune bâille et embrume l'obscurité de son haleine blanche. Le soleil crachote ses écailles blanches. Alors non, mais
ça se gâte.
Tout ça, ça fait très très mal. Et il y a des passages assez jolis quand il se promène dans Paris avec sa fiancée.
C'est joli, leur première rencontre.
Oui,
mais c'est
ça,
magnifique. C'est pas assez joli.
Si, c'est assez joli.
C'est bien plus que ça.
On voit qu'au cinéma, on joue Don Camillo et La loi du silence de Hitchcock. Ils écoutent des chansons de Mouloudji, mais hélas, ils couchent ensemble. Et alors là, c'est terrible, parce que la scène d'amour, c'est pire que la météo.
T'as pas le droit de dire
ben
ça.
Si, c'est lui qui l'a écrit. Brisure chaude et trempée, lézarde sublime dans le mur d'une femme qui s'offre. C'est vraiment de quoi rester chaste jusqu'à la fin de ses jours, ça. Et il reprend, là, ça y est, le temps se couvre. C'est la nuit, soupe grise, grumeaux d'étoiles lasses. Alors là, c'est Jean-Pierre Coff qui arrive et qui fait une description de recette.
C'est René Char.
Ou du René Char, ce qui est pire. Non, et le livre est gâché par ça, vraiment. Et je ne comprends pas que même pour un premier roman, l'éditeur ne lui ait pas dit « Vire-nous toutes ces petites coquetteries ridicules qui sont complètement antinomiques avec la violence du récit. »
Coquetteries qui, apparemment, ont séduit les jurés.
Mais ça ne m'étonne pas.
Goncourt.
À mon avis, c'est tout ce qu'ils ont lu dans
mais
le livre.
Mais reconnais quand même que l'histoire, je parle
de l'histoire est très intéressante, mais c'est un peu un sujet gâché pour peu de choses, d'ailleurs. Il suffisait de couper 3 lignes au début de chaque chapitre et le livre a été presque impeccable.
Patricia.
Je ne suis absolument pas d'accord avec Eric. Moi, je m'inscris en faux. Je trouve qu'au contraire, c'est servi par tu as l'air d'en faire tu as lu des passages qui semblent être mièvres. Or, ça n'est pas du tout ça. Je trouve qu'au contraire, c'est servi par une très belle langue, par un style.
C'est pas mièvre, c'est plutôt,
ou emphatique, ou je sais pas quoi. Oui, c'est fleuri, oui, mais quand il, mais justement, je trouve que sur toutes les scènes de torture, c'est précisément ce qui rend, la chose supportable, parce que sinon, je crois que ce ne serait même pas lisible. Je trouve que la description de l'amour qui naît entre cette femme merveilleuse, cette Hélène, c'est une mère courage, elle est inébranlable dans la passion qu'il habite et tout. Moi, je trouve ça absolument formidable. Il y a un télescopage, parce que c'est très bien construit entre le passé et le présent. Et il y a une, il y a, par exemple,
enfin, l'essentiel est au présent.
Hein, oui, mais tu as la fin d'un chapitre, par présent. Exemple, avec précisément leur première rencontre, et le début du chapitre suivant, c'est l'exécution. Ou la condamnation, enfin le moment où il apprend sa condamnation à mort. Enfin bon, tout ça est quand même très, je trouve, servi encore une fois par une langue et un style. C'est un livre sur l'humiliation quand il écrit que le sang s'assèche plus vite encore que la honte. Il y a un amour de la France. Cet homme est allé presque en confiance à la guillotine. C'est comme s'il n'y avait pas cru jusqu'à la dernière minute. Il faisait confiance en la France. Il avait confiance en la France parce qu'il aimait profondément la France. Que ce contre quoi il s'est érigé, c'est les oppresseurs. C'est pas du tout. Il n'avait rien contre les Français. Je trouve que c'est un livre qui retrace très bien sa naïveté. Ouais. Non, mais je veux dire, il aurait été français, oui, d'accord, mais à un moment donné, il a quand même choisi aussi son camp. La façon dont il parle aussi de l'ambiance d'Alger, de ses originelles qui étaient polonaises, de cette haine contre les communistes, les juifs, etc. Moi, je trouve que tout ça, c'est merveilleusement écrit. Moi, j'étais très sensible, au contraire, à la façon dont c'était
livre
écrit.
Bref, d'ailleurs. Hein.
C'est un livre très bref, bien sûr.
Non, parce que je dis ça, parce que comme Eric voulait déjà enlever un nombre de phrases impressionnant dans chaque chapitre, il n'en restait pas beaucoup. Jean-Louis, est-ce que tu l'as lu ? C'est un livre bref.
Oui, je l'ai lu, mais je n'ai pas aimé du tout. C'est un livre qui ne vaut, selon moi, que par la possibilité de rapprochement qu'il propose, du coup, avec notre époque, à propos de terreur et de terrorisme. Je veux dire, c'est dans ce contexte-là que je l'ai lu. Et c'est très surprenant. L'histoire est forte en ceci qu'elle est d'une simplicité étonnante. En 1956-57, on considérait comme terroriste et on pouvait donc même guillotiner un homme qui n'avait jamais eu qu'une intention de poser une bombe.
Il l'avait posé,
mais dans un lieu...
Désaffecté.
Dans un lieu désert pour surtout... Son objectif, c'était zéro mort, surtout pas de victime. Donc c'est très étonnant, quand on vit ce qu'on vit, et qu'on voit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très... Donc cette histoire devait être amenée de manière extrêmement sobre, je dirais. Elle se suffit à elle-même. Et donc, en dehors de l'aspect fleuri, faux, poétique que vous avez souligné, enfin que tu as souligné, il y a aussi un aspect qui
m'a... C'est Minou Drouet, Patricia, ce soir.
Et bien tant pis, j'assume, voilà.
Il y a un aspect qui m'a vraiment déplu profondément, c'est le côté... L'auteur est un militant aussi de sa cause, de son héros.
C'est pour laquelle il a refusé, encore une fois, les prix Goncourt.
Oui, ce en quoi, d'ailleurs, il a eu raison, parce que c'est pas, d'abord, il n'y a rien de romanesque là-dedans, et en plus, c'est pas un roman, c'est un récit, donc je vois pourquoi on voulait lui donner le concours du premier roman.
Très souvent,
la distinction, elle n'a plus lieu.
Ouais, c'est vrai, d'accord. Bon, en dehors de ces raisons à lui, que je ne connais pas, le fait est qu'il s'interpose constamment, finalement, entre son héros et le lecteur, c'est insupportable. Parce que, non, c'est vrai, parce qu'il se l'approprie, il gonfle des effets qui n'ont pas lieu d'être, et en fait, du coup, il fait paraître faux tout son propos, ça semble faux.
Il donne un sens à une vie qui a été tue, même dans l'humanité, il était
tout
dans
des questions, faux,
mais en page intérieure.
Enfin, j'ai même repéré.
Il y a Sartre et Camus qui ont, paraît-il, défendu.
J'ai cherché des traces, j'ai pas trouvé.
Et encore moi Sartre, non plus. C'est a posteriori, mais il paraît que Camus a écrit
je sais pas.
C'est manifesté avant.
Même j'ai même repéré tout est faux, même un faux Eugma, je vais retrouver. Oui, il y a aussi des faux Eugma, il faut se méfier. Par exemple, celui-ci. Hélène époussette les meubles, le chat furetant entre ses jambes.
Ah, c'est pas un Eugma, ça.
Non, c'est ce que je dis, c'est un faux.
Mais t'es d'une mauvaise foi.
T'as rien d'autre à foutre que d'aller chercher les faux Eugma dans les livres.
Ah oui,
il y en a beaucoup.
Maintenant qu'on a un pléthore des vrais, il faut chercher les faux. Elle époussette les meubles et le chat, non. Bon. Tandis que le chat furetait, on pourrait dire. Mais le chat furetant, c'est bizarre.
Michel.
Après cette virgule.
Moi, je suis plutôt du côté de Patricia dans l'histoire. D'abord parce que je trouve que citer des extraits, c'est toujours...
Ah oui, c'est cruel
Non, je le fais jamais. Ouais. Non. Alors là, excuse-moi, je ne le fais jamais.
Tu
parce
l'as jamais
que
fait
je...
ça
Non. Ou alors, je le regrette si je l'ai fait. Parce que... Non.
Tu peux faire des citations en disant que c'est bien.
Par principe, je n'aime pas ça parce que ça ne restitue pas... On peut ridiculiser Proust avec ça, je suis plutôt du côté de Patricia parce que je connaissais rien à cette histoire, j'ai débarqué là-dedans et j'ai été plutôt bluffé par l'immédiateté du style de l'écriture, de la façon qu'il a la scène de l'arrestation, hein, quand il est tout à coup, il se retourne, il y a les types qui l'empoignent, etc. J'ai été pris et même assez bluffé par l'immédiateté du récit. Alors c'est vrai, Eric a raison, on ne peut pas nier le côté kitsch de certains passages, etc. Mais sur l'ensemble, sur le fond, non, je trouve que c'est un livre assez fort.
Je vous rappelle que c'est un premier livre. Hein.
C'est un premier livre. Livre hein. Là où je serais plus réservé, c'est que, et je rejoindrais là plutôt Jean-Louis, c'est que c'est un livre assez militant, qui ne complexifie rien sur la guerre d'Algérie. Ce personnage est lui-même, se vit lui-même comme un militant communiste, et son attachement à la France.
C'est pas un essai sur la guerre d'Algérie non plus. Enfin,
non, mais le roman est quand même là pour complexifier les choses. Oui, oui. Et là, je sais pas d'ailleurs si ça s'appelle roman.
Il y a écrit roman.
Alors là, je serais assez critique parce que ce livre ne complexifie absolument rien du tout, alors que c'est vraiment un sujet qui appelle la nuance, la complexité, sans rien renier des horreurs qui ont été faites, naturellement, mais donc là c'est assez faible sur ce terrain-là. Mais sur l'écriture même, je suis assez bluffé.
Celle de Joseph Andras, donc l'écriture, je le rappelle, jeune auteur, 32 ans, et c'est De nos frères blessés aux éditions Actes Sud. Mariage en douce. Encore un livre bref, Jean-Louis. Tu vois, j'ai fait des efforts pour toi.
C'est bien.
Ce soir. Attends, 160 pages, gros caractère. Dariane Chemin, c'est aux éditions des Équateurs, la journaliste du Monde, qui, je vous le rappelle, a notamment raconté la nuit sarkozyste du Phuket et enquêté sur les Strauss-Kahn, fait cette fois le portrait d'un couple de légende, Romain Gary et Jean Seberg, en racontant un épisode peu connu, le mariage, le 16 octobre 1963, dans un village corse de l'écrivain franco-russe, prix Goncourt, pour Les Racines du Ciel, c'était son premier prix Goncourt, il y en aura un second à suivre, et de l'actrice américaine D'à bout de souffle, autour d'eux, seulement 4 personnes. Et comme elle est très forte, Ariane Chemin, elle a retrouvé le dernier témoin, âgé de 94 ans, de ce mariage, là je cite Ariane Chemin, de ce mariage secret défense, célébré sous le haut patronage des services secrets français. Un mariage, on le sait, dont l'épilogue fut tragique, d'abord avec la découverte du corps de Jean Seberg en septembre 79 à l'arrière d'une voiture, ayant succombé prétendument à une surdose de barbiturique et d'alcool, et puis avec le suicide l'année suivante de Romain Gary, alias Émile Ajar. Michel ?
Ah, moi, je trouve que c'est une petite merveille, ce livre. J'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé le fait que Ariane Chemin évite le piège de l'enquête qui accumule, parce qu'il y a une richesse de matériaux.
Ah, c'est-à-dire qu'elle a choisi, comme souvent, elle choisit un moment.
Oui,
précis.
Mais elle en a fait une sorte de petit poème, une petite chanson qui contient énormément de choses. C'est un livre très sensuel, très très sensoriel, qui sent la Corse, qui sent la guerre, qui sent le gaullisme, qui sent aussi la notoriété qui flotte autour de Gary et de Jean Seberg. C'est quelque chose de totalement insaisissable, mais elle transmet quelque chose de ça dans l'approche de ces personnages. Elle en a fait un livre pour moi que j'ai lu un peu comme un petit poème, une espèce de poème enquête, enfin. Non, je trouve ça alors aussi très bluffant, mais pas du tout dans le sens.
Oui, mais enfin, sans qu'il y ait jamais rien de bluffant ni dans l'écriture.
Non,
ni,
pas du tout. C'est très sombre. C'est bluffant plutôt dans le sens de la subtilité. Une petite chanson, je trouve. Elle cite des poèmes, des refrains, etc. Tout ça est très bien fait.
On sent qu'elle n'est pas
fait.
Indifférente à la Corse, hein, d'ailleurs, Patricia.
Et c'est drôle que tu dises une petite chanson parce que moi j'avais envie de dire c'est comme une danse en fait. C'est comme un pas de deux, quand Jérôme et moi nous dansons ensemble, n'est-ce pas? On danse
pieds
comme
nus.
Ça, puisque tu me regardes. Écoute, tu me regardes. Heureusement que tous les auditeurs,
sauf ceux qui
sont
là... J'ai la photo et je vais faire une enquête là-dessus.
Non, mais c'est pas... Parce que c'est quand même, malgré le fait que ce soit un couple terriblement photogénique, d'ailleurs on le voit en couverture du livre, qui sont beaux, qui sont talentueux, qui sont aimantés l'un à l'autre, c'est quand même un couple suicidé. Et ça commence par ça, avec une nuit corse, une soirée sans étoiles, au-dessus du paysage, donc il n'y a plus gai. Et en fait, elle insuffle effectivement énormément de fraîcheur à son récit, d'enthousiasme. On sent que, enfin d'ailleurs elle le dit explicitement, que celle qui l'a intrigué plus, c'est Seeberg. Donc quelquefois, elle est un petit peu plus, on va dire, plus indulgente envers Seeberg. Et il y a des très très belles choses sur cette femme divine, disait Truffaut, star avant d'être actrice, disait Gary Cooper, qui est d'une grâce absolument folle, qui est innocente, qui est sensuelle, sans rien faire de particulier, qui au début de sa carrière d'ailleurs était mineure, qui demande ses parents s'inquiètent du fait qu'elle est bien chaud, enfin bon, des choses qui sont vraiment assez marrantes, qui a été avalée en même temps par une machine à broyer qu'est le cinéma, ça le montre très bien.
Et lui était pas mal non plus, hein.
Et lui oui. était pas mal, mais enfin on voit quand même que il est quand même un peu prédateur. Il se nourrit d'elle, il se nourrit de son sang à elle. Surtout, il ne pense qu'à écrire, et ça finalement ça élimine tout le reste. Il est quand même légèrement schizophrène, mythomane, etc. Et ça, elle le dit très bien. Mais ils sont unis. Oh
bah, elle n'était pas claire non plus, hein. Non.
Bah, à mon avis, elle était plus claire que lui. Mais il l'a aussi protégée de ses propres fragilités. Ça, tout ça, c'est effectivement, il y aurait beaucoup plus à dire, mais on a l'impression qu'elle dit l'essentiel, parce qu'elle a tout compris.
Elle a réussi à.
Et puis je vous rappelle quand même que sur les deux, Égaré et Seeberg, on a tellement écrit que c'est même un défi de faire encore un livre sur les deux ensemble.
Ce qui est incroyable, c'est que les biographes qui ont écrit 800 pages n'aient jamais.
C'est l'angle mort. Ouais, c'est très étrange. Hein.
Et la photo de mariage qui est absolument incroyable.
Oui, où on voit que Gary s'ennuie comme un rat mort. Elle a les pieds en dedans, elle est engoncée dans sa robe trapèze. Et ça part d'une photo. C'est extraordinaire. Qu'elle a trouvée par hasard. Elle a entendu parler de ça. Et l'enquêtrice prend le dessus. Vous avez dit chanson, tu as dit danse. Moi, je dirais nouvelle vague. Parce que le livre est construit un peu comme Godard avait fait avec À bout de souffle. Ça va très vite. Elle coupe au moment où il faut. Ça repart sur un autre pied. C'est vraiment formidable. Elle préfère de loin Jean Seeberg. Mais on sent aussi que Gary était un brave type dans l'affaire. C'est que lui, il voulait pas se marier, il voulait pas d'enfant, et puis il a fini par céder.
Je dirais pas brave type, mais enfin.
Oui, brave type.
Non, mais elle est pas familière.
Un homme, quoi, il finit par céder.
Ouais, c'est ça. Un homme selon Eric Neuhoff. Ouais. Oui.
Michel a raison. On sent toute l'ambiance du gaullisme de cette époque. Le côté Quai d'Orsay, il était pas divorcé, ça compliquait les choses. C'est quand même un truc pour se marier.
Un de mes amis veut se marier tranquille.
Il y a des généraux, des agents secrets. C'est tout juste si elle n'a pas trouvé le colonel Moutarde du Cluedo du mariage.
C'est
phénoménal, ça. Et il y a des passages, elle trouve des anecdotes très, très significatives. Un dîner, une rencontre avec les Kennedy. Et où Jackie, en gros, leur dit à Jean Seeberg de ne pas se marier. Et c'est là qu'on voit l'écrivain, c'est que Jean Seeberg dit que Jackie avait une robe rose et dans son article, Gary dit que la robe était rouge. Et c'est ça la différence entre un écrivain et une actrice. Gary disait que même le divorce ne pourrait pas les séparer. Et il avait raison parce que même la mort n'a pas réussi à faire ça puisque je pense que là où ils sont, ils se sont trouvés.
Jean-Louis.
Oh, belle phrase.
On dirait du Andras.
J'imagine le brave type au paradis, etc. Je suis pas sûr qu'il soit au paradis. Enfin bon, c'était quand même un pervers, le manipulateur.
Oui, très manipulateur.
Très manipulateur.
Il y a une place au paradis pour les.
D'ailleurs, j'ai vu qu'à
c'était un cougar à l'envers.
Ariane Chemin,
il y en a beaucoup des cougars à l'envers.
J'ai vu qu'Ariane Chemin s'était bien documentée. Notamment, elle est allée voir Paul Pavlovitch, le neveu donc de Gary, celui qui
était le prête-nom.
Celui qui a porté
le
masque, c'est-à-dire qui a été littéralement vampirisé par
la doublure lumière.
Oui, par Gary.
D'ailleurs, il a fait un livre terrible, Pavlovitch.
L'homme que l'on croyait.
Terrible.
Là, on ne reconnaissait pas le style d'art, mais l'histoire elle-même. Donc, on voyait que Gary était un prédateur, point, mais maximal, quoi. Je veux dire, c'était terrible.
Mais de charme.
Sinon, oui, bien sûr, de charme, mais comme ils le sont tous, quoi. C'est mythologique, c'est comme Colette et Willy, c'est comme Aragon et Elsa Triolet, c'est comme
Aragon et Elsa Triolet,
c'est comme Marcel et Élise Jouandeau, mettons, puisqu'on parle de mariage. La question, c'est toujours, d'abord, ça finit mal, ça finit toujours mal.
dit-il en riant.
Oui, mais
t'as quand même dessus.
Le seul fait que ça finisse, mais en plus, on a l'éternité pour s'en souvenir après. C'est ça qui est bien avec la littérature.
Quelle belle phrase.
Alors, la problématique est toujours la même. C'est lequel, à propos de ces couples, lequel a mystifié l'autre. Sauf que là, Ariane Chemin réussit parce que là, on ne se pose pas la question avec Gary, franchement.
Quelle question?
Lequel a mystifié l'autre?
C'est clair.
C'est très clair.
C'est Gary qui a mystifié.
Bien sûr. Mais bien, je veux dire que même si la question est réglée dès le départ, elle réussit à nous entretenir.
Je comprends pas bien ta question. Tu comprends pas bien. Quand t'es amoureux, t'es pas dans un registre de mystification? Non, je sais pas.
Oui, mais au bout du compte, quand ça finit très mal,
vous avez bien des souvenirs. Il y a tous toujours. Les deux, quand même. Voilà.
mais des oui, justement. Communs, mais justement. Il n'y a pas plus bête qu'un amoureux. Donc comment voilà, tu justifies?
Ça, c'est un livre qui nous inspire. Mais beaucoup dit ça. Hein.
Mais c'est la faiblesse de Gary, c'est qu'il n'a jamais été bête en étant amoureux.
Ouais, mais de quelle façon était-il amoureux?
Vous allez en aligner beaucoup comme ça parce que là, l'émission, je ne la sens pas. Hein. On est bête quand on est amoureux et tout ça. Non, on va pas t'arrêter
là-dessus. Oui, mais c'est des il ne faut pas avoir peur des questions.
Non, mais c'était. Moi,
c'est la vie Jérôme. Allez, en une de plus.
Quand est-ce qu'on dirait?
J'irais jusqu'à dire que ce livre-là, il vaut plus par Ariane Chemin que par son sujet, finalement.
C'est presque un Zeugmas que tu viens de dire.
Non, c'est pas un Zeugmas.
Que par son sujet, parce que bon, la question est réglée depuis longtemps. Je veux dire, c'est vrai qu'elle n'avait rien à nous apprendre sur ce couple-là. Tu l'as dit, Jérôme, tellement on a écrit sur lui. Et pourtant, elle arrive à renouveler le truc. Magie de
joli
la littérature.
Joli titre, en plus. Mariage en douce. Mariage en douce. Gary et Seeberg. C'est Ariane Chemin. Et c'est aux Équateurs. Bon baiser de Mesmini. Encore un premier roman, mais gros, celui-là, chez Autrement. Jean-Louis, gros roman. C'est signé Fabienne Betting, mais il faut dire Bétain, paraît-il. Je me suis renseigné. Fabienne Bétain. Elle habite la Moselle. Et d'après son éditeur, donc, elle est spécialisée dans son travail quotidien dans l'imagerie médicale en 3D. Alors, à nos auditeurs qui connaissent mal, je les comprends, la Mesménie. Donc, je rappelle, c'est un petit pays, balte, qui est coincé entre la Russie et l'Estonie, pays qui est connu pour être d'une laideur repoussante, où la végétation, nous dit Fabienne Bétain, est chiasseuse. Je ne sais pas encore. Et où les collines ressemblent.
C'est pas gentil.
Où les collines ressemblent
à
des.
J'y suis allé. Je
les collines ressemblent à des miches de pain complet, mais moisies. Alors, on y mange des bonnes choses, du saucisson de grenouille, arrosé de croche vodka. Et un chou violacé qui s'appelle le capistiniou.
Qui a l'air d'être déjà fané quand on le cueille, mais en fait, il ne l'est pas.
On se le met parfois sur la tête.
Voilà.
C'est à mon avis, c'est le cousin du doubichou, là, du Père Noël est une ordure. Et surtout, on a récemment découvert en Mesménie, donc des terres rares qui sont riches en énergie verte. La romancière, donc, elle raconte comment un employé de McDo, qui est Thomas Lagrange, en est venu à traduire, mal traduire d'ailleurs, du Mesmen. Et même a signé de son nom un roman au titre très affriolant qui s'appelle « La vie rurale en Mesménie ». Une histoire d'amour entre une septuagénaire mesmène et un quadragénaire ukrainien, qui est une chose qui fait quand même assez plaisir. Alors, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, il s'est vendu 100 000 exemplaires en France. Il a même été traité, ça je l'ai appris dans le livre, page 154 et suivante, traité au masque et la plume. Il y a 4 pages pour nous raconter qu'Olivia de l'Emperterie, Arnaud Vivian et Jean-Louis Hésine ont parlé de ce livre. Puis une autre critique que je ne connais pas.
Non, ça n'existe pas.
Oui, tu regarderas, c'est page 154. Et le roman, il se termine par un voyage, je dois avouer, assez hilarant en Mesménie.
Il est long, le voyage.
Qui tient un peu de la Cile d'Avis de Tintin et de la. J'ai aussi pensé un peu à la Principauté de Groland, parfois.
Et auquel sale temps de San Antonio aussi.
Oui, un peu. Un peu pensé. Tu l'as regardé, ce livre, Jean-Louis?
Ah ben, oui, je l'ai contemplé.
T'es à des deux côtés?
Oui.
Non, mais si tu veux passer ton tour.
Non, mais je crois simplement qu'il faut se dépêcher de le lire avant que le monde réel ne dépasse les pays imaginaires qu'on invente pour se faire peur, vous voyez, parce que c'est en train d'arriver, ça aussi. Donc, il s'inscrit dans une belle tradition. Tu as cité la Cile d'Avis. On pourrait dire aussi le Lilliput de Swift.
Oui, absolument. Il y en a pas mal.
Il y en a pas mal. Le Sterlich de.
Sauf
de
que la Mesménie, on n'a aucune envie d'y aller. Hein.
Ah ben non.
Mais moi, je suis allé dans cette région.
Ça m'étonne pas de toi.
Tu es allé?
Oui, je suis allé. Enfin, je suis allé en Estonie et en Lituanie et tout ça. Oui, j'ai été voir.
Mais t'as un côté Mesmen.
Comme Jean-Paul
Coffin. C'est vrai qu'il pourrait. Tu pourrais être Mesmen.
Oui, absolument. Mais j'ai des ascendances Mesmen.
Avant de revenir à Jean-Louis, donc tu as regardé ce livre?
Oui. Sympathique. Bon, c'est un peu lourd.
Mais, j'ai pas trouvé.
Vraiment?
Non, pas
ce qui
lourd.
Est lourd, c'est le pays.
Non, c'est écrit légèrement en plus.
Ah oui.
Il y a pas de.
Si on compare avec chacun.
Pas écrit.
Oui. Mais l'idée, j'aime bien l'idée de jouer un peu avec la traduction. C'est une sorte de, mine de rien, une sorte de livre sur la littérature, sur ce qui fait qu'on est pris.
Et sur cette littérature-là.
C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Tu me regardes d'une drôle de façon.
Oui, non, mais c'est parce que j'ai besoin d'une bouée pour éviter de sombrer complètement. Et donc, ah voilà, oui. je te vois, je m'accroche. Ah oui. Mais oui, non, c'est sympa, c'est très sympa.
Ah oui.
Le passage sur le masque et la plume ne t'a pas enchanté. Je veux dire, tu ne participes pas à ce masque-là. Tu n'es pas dans.
Ben non, j'y étais pas.
Peut-être que tu n'es pas arrivé à la page 154.
C'est le seul possible.
J'ai bien souvenir que si. Mais...
Je doute. En te voyant tout d'un coup t'inquiéter que tu ne sois pas allé au-delà de la page 153.
Non, c'est tout.
Jean-Louis, tu voulais peut-être terminer, peut-être. Non.
Oh non, faut pas terminer. Non. Il faut absolument lire ce livre qui est très drôle, franchement. Hein. Y compris d'ailleurs le passage sur le masque, il faut bien dire, c'est vraiment très drôle. Surtout le passage sur le masque. Je me souviens plus ce que j'y dis, mais enfin, je dis des choses essentielles sur.
Tu parles du livre. Tu parles de la vie rurale en Mesménie.
Oui, c'est ça. Oui, absolument.
Mais alors, ça fait la deuxième fois qu'on parle du livre au masque, alors.
C'est un livre qui te raconte l'histoire d'un livre.
On parlait de la vie rurale en Mesménie.
Voilà. Qui est le seul.
Là, on parle de bon baiser de Mesménie.
C'est à l'intérieur. C'est une mise en abîme.
En fait, le problème, c'est qu'ils
ne
l'ont pas lu ni l'un ni l'autre, donc je leur raconte un livre. Depuis, ça fait 5 minutes que je me fatigue à leur raconter un livre qu'ils n'ont lu ni l'un ni l'autre.
Mais si, et ils n'en ont pas envie. Hein. Je peux même, je suis même en mesure de te dire.
On le dira jamais assez.
La vie rurale en Mesménie est le seul ouvrage qui ait jamais été traduit du Mesmène au français.
Et comment elle s'appelle, sa copine au narrateur, là, qui est assez sympa, qui lui donne des conseils là.
La Mesmène ? Ah non, sa femme, sa compagne.
Ludivine, ou je ne sais pas.
Non.
Sandrine.
Elle est adorable.
Non, c'est très fiable.
D'abord, il y a un zeugma, page 360. Ah, je saute d'abord dans mon jean, puis ensuite dans le métro. Puis ensuite, pour ça que quand tu disais que c'était pas divinement bien
écrit. Il y a trop de mots toujours dans ce livre.
C'est un petit peu comme... Là c'est du Mesmène mal traduit,
mais,
certainement.
Mais l'histoire du masque que
c'est
tu
du
cites...
Souviens-toi, tout commence par une petite annonce dans un journal où on cherche un traducteur.
J'adore ça.
C'est merveilleux.
Alors ça, c'est vrai.
On cherche un traducteur du Mesmène au français et il est précisé en dessous, rémunération très bien.
Mais précisément, moi, ça m'a amusé jusqu'à l'anecdote jusqu'à ce qu'elle raconte le masque et la façon dont elle raconte. C'est vrai qu'au début, c'est marrant parce qu'elle fait la queue, etc., comme vous ici, vous le faites patiemment. Mais il y a des inexactitudes et en fait, il y a beaucoup d'approximations comme ça souvent dans son livre. Oui, d'abord parce que, non, mais je suis désolée, si tu écris les choses, tu disais, tu n'es pas présentateur du masque, tu en es le producteur. Elle dit que le cinéma est diffusé après le littéraire, etc. Et c'est bourré comme ça, à chaque fois, d'inexactitudes. Non, c'est pas du jeu. Non. Et c'est pour ça, je trouve que, alors que l'idée de départ était très bonne, qu'elle a des jolies formules, quand par exemple elle dit, j'étais le mal de gorge, elle la pastille drill, ou moi le coup de soleil, elle la biafine. On dirait, vous savez, la pub qu'il y a pour Air France, tu es le hamburger, je suis la blanquette de veau. Enfin, il y a que, non, vous n'écoutez pas, vous n'avez jamais que, écoutez la pub d'Air France, vous entendrez.
Je suis un peu perdu.
C'est le vol de Paris-Mesménie, ça.
Non, pas du tout.
C'est à la radio ou c'est à la télé?
Ça passe à la radio. Alors, je sais pas si ça passe aussi en télévision, mais apparemment, ça passe à la TSF. Quelquefois, il y a un peu trop d'archétypes, etc. Et alors, le voyage final, qui dure 3 jours...
Avec des vieux, en plus.
Avec des vieux, au cours duquel le narrateur vieillit de 10 ans, je me dis qu'il en est de même pour le lecteur, si tu veux. Franchement, et là, c'est dommage, parce que s'il y avait eu peut-être un travail...
Ça manque de flamber, quoi.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui manque.
Ne parle pas d'un livre que tu n'as pas lu comme ça.
Franchement, c'est... mais je suis d'accord que les 100 premières pages...
Moi, j'ai rigolé, puis je trouve que la manière...
Il y a des choses drôles, oui.
On entre dans cette maison d'édition improbable, Balte à Paris.
Oui, mais là aussi, c'est un peu caricatural, la façon dont elle se moque des maisons des éditeurs, des maisons d'édition, des médias. Bon,
Éric Neuhoff.
Traite un peu forcé.
Je ne sais pas si elle est radiologue, mais je n'irai pas me faire faire des radios en 3D par cette dame, parce que j'ai trouvé le livre très plat. Et puis c'est le genre de cabinet où tu dois rentrer à 10h du matin et sortir à 8h du soir, parce que c'est très très long, c'est 400 pages.
Mais ça se lit facilement.
C'est vraiment de la chick lit, hein. C'est écrit avec les pieds, c'est même pas au fil de la plume, c'est au flot du clavier, c'est très mal écrit, c'est affreux. Elle a un gros défaut, l'idée de base est rigolote, mais elle met 5 phrases quand une demi aurait suffi à chaque fois. Et page 22, par exemple, il y a 4 fois le verbe « trouver ». Là aussi, l'éditeur aurait
Qu'est-ce que vous êtes pinailleur ?
Mais c'est pas pinailleur, ça.
Alors, soit vous lisez pour chercher la répétition.
Il y a un côté...
Mais c'est on ne cherche pas, on trouve sans chercher.
C'est pas étonnant que le héros travaille au McDo, parce que c'est un peu une bouillie indigeste à la
scène. Ça, c'est pas mal. Ouais. Les scènes du McDo, je trouve ça plutôt sympa.
Oui, ça va. Enfin, c'est un peu cliché avec le patron qui est odieux. Mais devant ce McDo, on a un peu envie d'être comme José Bové, de
secouer. C'est vachement bien, mais ça manque d'être ramassé.
Et comme il trouve son job dans 20 minutes, ça prouve qu'il faut toujours se méfier des journaux gratuits.
Bon baiser de Mesmény, c'est Fabienne Bétain et c'est aux éditions Autrement. Sans dessus dessous, traduit par Marianne Faurobert, ça c'est chez Liana Levi. Et c'est le nouveau roman de l'italienne Milena Agus, à qui on doit notamment Mal de pierre, que Nicole Garcia vient de porter à l'écran. On a vu le film au Festival de Cannes. Et c'est, pourrait-on dire, l'histoire d'un immeuble dans la bonne ville de Cagliari, en Sardaigne. On est au dernier étage. Il y a un violoniste veuf, septuagénaire, américain, autrefois célèbre, Monsieur Johnson, qui habite un bel appartement avec vue sur la mer. En bas, il y a Anna, qui est une femme de ménage sexagénaire, qui vit avec sa fille dans un logement beaucoup plus modeste, presque insalubre. Et qui monte souvent aider le violoniste dans ses tâches quotidiennes et plus si affinité. Il faut dire que Monsieur Johnson, eh ben, il cache des revues porno et elle, Anna, elle cache des dessous coquins. Dans l'immeuble, il y a aussi Alice, qui est une romancière dont le père s'est tué et la mère est folle. Et puis, elle est amoureuse du fils de Monsieur Johnson et elle tire les ficelles de cette comédie sarde qui se passe beaucoup dans les escaliers, comme souvent dans les pays du Sud. Tu avais aimé le film à Cannes, je sais, de Nicole Garcia.
Oui.
Tu as été un des rares. Ouais. Mal de pierre. Ouais. Est-ce que tu as aimé le roman, Eric,
beaucoup,
de Milena Agus?
Voilà un petit objet très curieux, très réussi.
Ésinien, bref.
Oui. Et on ne sait pas comment c'est fait, mais on est sûr d'une chose, c'est que c'est bien fait. Mmh. Elle a vraiment un don, cette fille, c'est des petits bouts de chapitres qui compose comme un puzzle. On est dans cet immeuble, comme chez Georges Perec, en beaucoup moins gros. Et les personnages sont tous très typés, très réussis, avec des désirs inassouvis. Et cet ancien violoniste virtuose qui dit que non, il joue du violon, sa femme l'a quitté et du coup il se laisse un petit peu aller, il boutonne ses chemises.
Elle est morte, non?
Ah non,
mais
pas
non,
celle-là.
Elle revient.
Je croyais qu'elle était.
Bah elle revient.
Je croyais qu'elle était.
Non, elle revient, la milliardaire. T'as pas dépassé la page 13, là.
Non, j'ai lu.
Et non, il y a toute une ambiance. On voit un film qui serait un film à l'italienne, mais pas une comédie. Ce serait un film comme Une journée particulière avec des petites touches d'humour. Et tous ces gens qui se croisent dans l'escalier, qui s'aiment sans oser se le dire, le vieux qui collectionne ses revues porno, qui a tout d'un coup, qui devient un cougar, lui, et quand sa femme revient, c'est la catastrophe. Et la narratrice, quand il y a un personnage d'écrivain dans un livre, en général, ça a le don de faire fuir. Mais là, c'est comme elle n'écrit pas encore, elle apprend, enfin, elle observe les détails.
On sent qu'elle.
Elle prend des notes,
visiblement.
Elle
s'y a les fils, hein.
Ses parents ne s'entendaient pas, et sa mère disait tout le temps à son père : j'aimerais mieux que tu sois mort. Et elle dit, le jour où on l'a trouvé pendu, on s'est aperçu que c'était faux et qu'elle le préférait vivant. Et il y a un tas de notations comme ça et un ton très naturel comme des petites notes de piano à la Satie. Elle est vraiment très, très forte, cette Agus.
Michel ?
Tout à fait d'accord. J'ai pensé aussi à l'univers immobilier de La journée particulière, comme si on était dans une commedia dell'arte, mais dans cet univers-là que Scola a montré dans son film. Et c'est plein, Eric a très bien dit, c'est plein de finesse, de choses qui n'ont pas de... C'est le livre le mieux écrit de la série ce soir, vraiment.
Jean-Louis ?
C'est bizarre, mais ça m'a fait penser à Sagan, pour son côté foutraque. C'est d'ailleurs un mot qu'adorait Sagan.
C'est très organisé.
Ah, mais c'est bien organisé. C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est du boulevard. C'est du boulevard, c'est du théâtre de boulevard.
Oui, mais
c'est
Barrier et Grédy,
version italienne. Version...
Très fin en même temps.
Oui, non, mais avec beaucoup de finesse, une construction. Vraiment, oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi.
Il y a beaucoup d'imagination, c'est très poétique, c'est tragicomique, parce qu'effectivement, il y a la mort plane, la vieillesse, etc. Elle cite Romain Gary au début du livre, qui dans la vie devant soi vante les amours tardives, parce qu'au moins on n'a pas eu le temps de se lasser l'un de l'autre, et je trouve que c'est l'exact contrepoint du livre de Camille Laurence, dont je sais qu'il a été très apprécié, qui moi m'a considérablement... énervée, parce que dire que les femmes, après 50 ans, les femmes sont invisibles, eh bien, la preuve en est quand il lui dit... Enfin, regarde-moi, exactement. Et quand il dit à cette vieille femme, « You are lovely », c'est tellement joli, c'est tellement ça. Non, elle est pas cougar du tout.
Les cougars.
Ah non, mais ça n'a rien à... Non, mais là, ils sont pas du tout.
Les cougars font métier de leur âge.
Mais je trouve que c'est un livre effectivement qui sent l'iode, qui sent le soleil, qui sent la cuisine, les peintures un peu délabrées, comme ça, on sent quelque chose d'un monde passé qui est encore. C'est vraiment un livre du sud.
Mais en intérieur,
voilà, il voit bien les choses. C'est un livre du sud.
Mais il a raison.
C'est la Sardaigne.
Il a raison.
Il y a une très belle déclinaison sur un plan poétique entre le dessus et le dessous
aussi. Et chez Milena Agus, le décor et l'atmosphère, tu retrouves la même chose dans chacun de ses livres.
Oui. Sans dessus dessous, c'est donc chez Liana Levi, le nouveau livre de l'italienne et sarde, Milena Agus.
Elle est sarde. Oui.
Et on termine avec un livre d'Éric Hazan, 14 ans après l'invention de Paris. Éric Hazan publie au Seuil une traversée de Paris. Éric Hazan, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un ancien chirurgien cardio, devenu éditeur de La Fabrique aujourd'hui, une maison de gauche radicale qui publie tous les livres qu'aime Éric Nehoff, c'est-à-dire Alain Badiou, Frédéric Lordon, Jacques Rancière.
Ne sais même pas qui c'est.
Arrête. Non, mais c'est important pour comprendre aussi ce livre. Parce que Hazan traverse la capitale à pied, Il entre au sud par la porte d'Ivry pour sortir au nord par la porte de Clignancourt. Ça, c'est un monde que tu connais pas très bien, Eric, mais qui se trouve vraiment au nord de la capitale. Il déteste le baron Haussmann et il s'attache tout particulièrement au tracé des révolutions qui ont mis la ville sans dessus-dessous. Il retrouve près du bois Saint-Germain, par exemple, la rue qui est totalement effacée aujourd'hui où habitait Danton. Il propose d'éradiquer la préfecture de police et l'hôtel Dieu pour construire des logements sociaux. Il tient la gare du Nord pour un chef-d'œuvre d'architecture. Il raconte la place. Ça, j'ai adoré ce passage sur la place de la République, bien avant Nuit debout.
La grosse dame des frères Maurice.
On est au 19e siècle. Elle s'appelait alors la place du Château d'Eau.
Ouais, et après, il y a eu cette...
Et elle était déjà, je cite Hazan, la plus turbulente de la ville, la plus prompte à dresser des barricades et à se battre jusqu'à la mort. Ouais. Puis il raconte aussi, en marchant, évidemment, du sud au nord, les hôpitaux où il a fait ses études, Salpêtrière, la Hennec, les cinémas, les librairies de sa jeunesse, dont celle de Maspero. Il cite ses auteurs de chevet, tous évidemment, fous de Paris, Balzac, Zola, Hugo, Fargue, Aragon. Puis il y a des petites photos dans le livre, prise très rapidement, au fur et à mesure de sa marche. Patricia.
Et celle d'ailleurs de la couverture fait partie de sa collection personnelle. On ne sait pas du tout... j'ai essayé d'imaginer dans quel quartier ça pouvait se situer, mais je n'ai pas trouvé. Mais c'est vrai que c'est un creux, il y a un autoportrait, c'est une géographie intérieure. Tu le disais, il se promène à pied, c'est très important parce que ça donne évidemment au livre tout son rythme. Même s'il était à vélo, ce ne serait pas du tout la même chose. Alors, ses opinions, quand il
n'y a pas... C'est très militant,
C'est très, très militant. C'est vrai que là, tu parlais de la place de la République, mais alors la grosse dame des frères Maurice qu'on a mise au milieu, ça le gêne considérablement. Il n'aime pas Franck Guéry, il n'aime pas Vuitton, il n'aime pas la Nouvelle Philharmonie. C'est quand même un livre plein de...
Il n'aime pas Léal d'après le trou, si j'ose dire.
Mais quand il aime, il aime. Et puis alors, c'est un livre qu'il faut lire à petite dose parce que c'est quand même très, très dense. C'est à la fois fouillis et très organisé. C'est incroyablement érudit et je trouve qu'il fait tellement bien il dresse des ponts finalement entre l'architecture et la politique. Il connaît l'histoire. C'est bourré de mille détails. Il faut absolument il faut presque le lire en se baladant et en allant sur les lieux qu'il décrit. C'est un merveilleux.
Et à propos de militantisme, la dernière phrase, c'est non, le peuple n'a pas perdu la bataille de Paris. On voit au moins que c'est ce qu'il veut. Michel.
Je ne suis pas aussi élogieux que Patricia, à vrai dire. D'abord, je trouve que c'est un livre qui procède d'un livre initial qui s'appelle L'Invention de Paris.
L'Invention de Paris, qui était il y a 14 ans.
Qui est un énorme livre extraordinaire. Celui-là est un peu un concentré de l'invention. C'est un peu à marche forcée. Il n'a pas le rythme farguien du flâneur. C'est pas du tout un livre de flânerie. C'est une traversée de Paris, mais alors vraiment à toute vitesse.
Rapide, oui.
Et je pense que c'est un défaut de d'écriture. Il connaît par cœur Paris. Il y a aucun problème. Je me permets pas.
Incroyablement.
Mais c'est trop concentré. Et puis là, il y a un petit détail qui m'a amusé, parce que qui amusera peut-être Eric. Je sais pas s'il s'en souvient, mais dans un de tes propres livres, Eric, tu repères que la rue Cassini, dont Hazan parle, la rue Cassini n'a pas de numéro 4. On passe directement.
Tu nous annonces ça comme ça, tout d'un coup, mais c'est une violence incroyable.
J'en ai les larmes aux yeux.
Mais attends.
Les auditeurs, ils vont.
J'appelle Hazan tout de suite.
Mais non, mais. Et c'est d'autant
plus. La rue Cassini n'a pas de numéro 4.
Elle n'a pas de numéro 4. Éric avait repéré ça dans un de ses livres il y a très longtemps, je ne sais plus lequel. Et c'est d'autant plus énigmatique que c'est à cet endroit-là qu'Alain Fournier a écrit Le Grand Maulne. Et ça. Oui, au 4 qui n'existe pas.
Et Hazan a habité rue Cassini, maintenant, que j'y pense.
Alors, Eric,
c'est pas si mal.
Tu veux dire, malgré ses idées politiques
ben, Je savais pas tellement qui c'était. Non, j'ai eu un peu peur, parce qu'il parle de la traversée de Paris au début, en disant, bon, le film d'Otan Lara, et il vit les deux Lascars. Alors, je me suis dit, oula, s'il commence à écrire comme ça, mais comme j'ai vu qu'il avait 80 ans, c'est un langage de monsieur de cet âge-là. Et y a, c'est, Michel a raison, c'est pas Fargue, c'est pas Calais, il n'y a pas la poésie, la flânerie, mais il connaît vachement bien Paris. Il est un petit peu obsédé par les manifestations, les révolutions, tous ces trucs-là, les exécutions. Oui. Mais c'est un bon piéton. Oui, puis, on apprend un tas de choses, en plus. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un square Serge Gainsbourg dans un endroit tout à fait hypothétique, en plus. J'ignorais aussi qu'il y avait Faubourg Saint-Denis, une médiathèque Françoise Sagan. Un coin où il n'a jamais dû mettre les pieds de sa vie, c'est formidable. Et il y a un passage très, très, très joli, peut-être malgré lui, et il est place d'Enfer Rochereau. Il se souvient que c'est l'endroit, en regardant le lion, qui a changé sa vie, parce qu'il était bloqué à un feu rouge, et il était chirurgien. Il a décidé de tout plaquer pour devenir éditeur, journaliste, écrivain, je ne sais quoi. Et on voit là-dedans qu'on a vraiment changé d'époque, parce que en ce temps-là, un médecin était quelqu'un qui connaissait par cœur Balzac, Chateaubriand, Stendhal. Et aujourd'hui, si un toubib peut citer Guillaume Musso, c'est déjà bien beau.
Et ne critique pas, Eric, si je peux me permettre, ne critique pas les bibliothèques de Paris.
Tout le passage où il traverse aussi le quartier latin, qui était celui des éditeurs, parce qu'à l'époque, il était...
Il y a une belle nostalgie aussi, pardon.
A totalement disparu. Ouais. Et puis, il parle bien, ça a dû toucher aussi des cinémas.
Oui, des cinémas qui ont
disparu. Et puis, des endroits qu'il n'aime pas. Parce que le Jardin du Luxembourg, par exemple, ça lui rappelle de mauvais souvenirs de jeunesse, d'enfance.
Mais. Jean-Louis.
C'est formidable, parce que je vous entends parler d'un livre que, visiblement, je n'ai pas lu. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pas celui-là que j'ai lu.
Et pourtant, tu l'as lu.
Oui, et pourtant, je l'ai lu. Mais je n'y retrouve rien. Non, parce que peut-être à cause de cette densité incroyable qui fait qu'on ne respire pas là-dedans. Quand tu marches, tu dois respirer. Tu as cité, vous avez cité Léon-Paul Fargue.
Mais il ne s'écoute pas écrire.
C'est son caractère.
Ce n'est pas un écrivain.
Oui, c'est pas un écrivain parce qu'il n'y a pas d'écriture. Non, il n'y a pas d'écriture.
Oui, mais il ne joue pas à faire le beau.
Non, mais alors du coup, je me demande du coup quelle est la raison de ce livre. Quel est son pourquoi, son but, comment il fonctionne.
Il faut lire celui d'avant.
Si c'est comme un guide,
il faut lire l'invention.
Il est beaucoup moins pratique quand même. Pour moi, La Traversée de Paris, ça reste le film d'Otan Lara. Au moins, là, il y avait du jambon dans les valises. Là, ça manque de jambon dans les valises.
Ça manque de jambon parce qu'il n'y a plus de charcutier.
C'est une version abrégée, d'ailleurs. Pour tout vous dire, son modèle, il le dit souvent, d'ailleurs, c'est le Walter Benjamin des passages.
Oui, mais alors c'est-à-dire, on est loin de Benjamin.
Il décrit des choses, non, mais il ne les glorifie pas, il les décrit. Et je trouve qu'il les décrit bien, mais ce n'est pas effectivement...
Oui, mais on ne sent pas la marche.
C'est une version abrégée et militante de son invention de Paris.
Léon-Paul Fargue, on le flâne avec lui. Il te fait toute une rue, tu vas avec lui.
Il est sérieux, on voit.
Il est sérieux et souvent pétard,
donc ça le fait avancer plus vite.
Non, mais il y a des jolies formules. Il parle du boulevard Arago. Il commence
aussi,
son chapitre en disant « Ce boulevard gagne à être connu ». Moi, je trouve ça pas mal, ça.
Et puis, le livre d'avant, donc, il y a 15 ans, L'invention de Paris, était une mine.
Mais
une
extraordinaire.
Mine d'informations,
ça, c'est un livre
sur la ville.
Vraiment, c'est celui qu'il faut lire, en fait. C'est celui-là.
Bon, là, c'est Une traversée de Paris. C'est Eric Hazan. Et c'est aux éditions du Seuil. Allez, un conseil pour finir cette émission. Allez,
si on disait que Paris est le seul endroit du monde où il fait bon désespérer. Et là, avec ce livre, vous voyez, on y arrive.
Non.
Le conseil de Patricia.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin sûrement oui, de Lolita, lire Lolita à Téhéran.
Oui,
d'Azhar Nafissi, dont on avait parlé ici. Eh bien, elle publie un nouveau livre où il y avait un amour, mais absolument incroyable de la littérature, où malgré toutes les interdictions, elle était prof à la fac, elle s'est fait renvoyer. Ça se passe dans à cheval entre les années 80 et 90. Elle se fait renvoyer de la fac, elle fait venir des étudiantes et un garçon chez elle pour leur enseigner la littérature au risque de leur vie. Et bien là, maintenant, elle est prof à Washington et elle écrit La République de l'imagination chez Lattès. Et je trouve que c'est un livre absolument magnifique parce que l'imagination, finalement, sert de baromètre à une société. C'est-à-dire que la place qu'on donne à la littérature est proportionnelle à notre bonne santé mentale. Et apparemment, aux États-Unis, il n'y a pas énormément de place pour la littérature.
Le conseil d'Éric.
Les éditions des Équateurs ont eu la bonne idée de rééditer le livre de Frédéric Vitoux. Oui. Il me semble désormais que Roger est en Italie, qui date de 86.
Roger Tailleur.
C'est une petite merveille. C'est un tombeau pour Roger Tailleur, qui était critique de cinéma à Positif.
À Positif.
Et qui n'écrivait plus et qui était passionné par l'Italie. Et il est mort assez subitement. Et quand Vitoux a appris ça, visiblement, sous le choc, il a écrit en quelques jours cet hommage, ses souvenirs. Et c'est vraiment un livre d'amitié pure, avec un livre aérien, grave.
Très bref, et qui est apparu il y a une
quinzaine. En 86, il y a 30 ans déjà. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose à lire. Et en plus, ce Roger Tailleur était quelqu'un qui connaissait les cinéastes nés dans le Wisconsin, qui étaient Lozay, Orson Welles et Nicolas Ray. Et c'est pour des détails comme ça qu'on aime ses amis.
Moi, je vous conseille un livre qui s'appelle « Je ne pense plus voyager ». Signé François Sureau chez Gallimard, qui est un très beau portrait de Charles de Foucault.
Très beau,
ce libertin devenu ermite, ce Saint-Cyrien devenu père du désert, et qui a été assassiné en 1916 à Tamanrasset dans son ermitage. Mais je trouve que tu l'as lu aussi.
Oui, bien sûr.
C'est un portrait, là aussi on a tellement écrit sur Foucault, mais il y a quelque chose de plus.
Qui est passé inaperçu.
Un peu inaperçu. Donc ça s'appelle « Je ne pense plus voyager », qui est une phrase qu'il envoie à la fin à un ami. Jean-Louis.
Je viens d'apprendre par la Quinzaine littéraire qu'on rééditait Les Enfants du Bon Dieu d'Antoine Blondin, son deuxième roman.
On réédite tout pour l'instant d'Antoine Blondin.
On réédite tout. Ça, c'est à la table ronde dans La Petite Vermillon. Alors là, c'est le Paris que déteste, ça se passe dans le Paris que déteste Éric Hazan, pardon. Parce que c'est là, c'est dans les quartiers qui sont profonds comme des allées de cimetière. Tout ce qu'il déteste,
il est contre la manière dont on les a refaits parfois.
Oui. C'était juste un élément de décor, mais bon. il faut relire Antoine, si on n'a pas lu Les Enfants du Bon Dieu, il faut le lire. C'est l'histoire simplement d'un adultère merveilleux, on va dire.
Un adultère merveilleux.
Oui, tout à fait, parce qu'il...
Changer le traité de Westphalie, Les Enfants du Bon Dieu.
Oui, c'est ça. C'est le côté, c'est l'impassibilité malheureuse du héros qui fait
l'impassibilité.
André, c'est ce qu'écrit Marion Bay dans la Quinzaine littéraire. Oui. Et je suis bien d'accord avec
Michel le conseiller.
Alors moi, je voudrais vous recommander un roman d'Olivier Moulin qui paraît aux éditions de Noël, qui s'appelle La Fête est finie et qui est très drôle, qui m'a fait rire.
Et pourquoi?
Parce que ça raconte l'histoire de deux chômeurs, Totor et Tito.
Oh, c'est très drôle.
Et oui, mais non, ça commence, ils sont gardiens de parking, et puis après, ça part en vrille et tout. Ça m'a fait rire. Les livres qui me font rire, mais vraiment hurler de rire.
Mais moi, je me méfie beaucoup des livres qui te font rire, toi.
tu as bien tort. Quand tu devrais essayer. Essaye de lire ce livre. Quand Olivier Moulin. La fête est finie chez De Noël.
Ça a l'air fou.
Il a eu un prix autrefois, le prix Étonnant Voyageur, pour un livre qui s'appelait le... j'ai oublié.
Donc, tous ces conseils, la fête est finie. Même l'hilarant conseil de Michel Crépu, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Patricia Martin, Éric Neuhoff, Michel Crépu, Jean-Louis Hézine pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Sacha Guitry à la technique, il y avait Pascal Bénard, Célia Dufour et Nicolas Despagrafe. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est dimanche prochain, dimanche 10 juillet. Je vous attends tôt à 10h du matin au musée Calvet pour deux émissions consacrées au festival, le festival In et aussi le festival Off. On sera donc la semaine prochaine à Avignon pour parler de théâtre. D'ici là, bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.